Alors, je vous invite à tourner dans le psaume premier, le premier psaume, le psaume 1. Et dans quelques instants, je vais inviter, pas tout de suite, mais je vais inviter Dominique à s'approcher pour nous lire le psaume 1 dans une autre version, une version assez poétique. Vous allez voir, c'est intéressant. Donc, le psaume 1, on va s'arrêter tout simplement aux trois premiers versets. Et puis, ce qu'on va voir, c'est la clé pour être comblé. Vous savez, dans notre ère technologique, on a toutes sortes de clés. Hein? Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de serrure, puis on a une clé. Avec les clés électroniques, on peut débarrer des portes, on peut les débarrer à distance. On a toutes sortes de clés, comme on a vu juste auparavant. On a des clés USB où est-ce qu'on peut transmettre énormément d'informations. Avant, quand on avait des disques durs externes, ça prenait de la place. Ils ont réduit. Maintenant, dans une clé USB, c'est incroyable. Il y a certaines clés USB, tu peux mettre pratiquement tout le contenu de ton ordinateur dedans. C'est complètement renversant de voir comment que la technologie va loin et comment que tout ce qu'on a besoin se rapetisse. Et une des clés, justement, pour être comblé, c'est la méditation. Vous savez-vous qu'il y a toutes sortes de types de méditation, puis je vais y revenir là-dessus. Et ce qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, la méditation devient de plus en plus populaire. Vous savez qu'il y a un article qui a été publié sur la revue de l'actualité en 2015 qui s'appelle « Le boom de la méditation ». Et ce que ça nous montre dans cet article-là, c'est que ça rejoint un besoin. Écoutez bien ce qu'on dit dans cet article. « Vanté par des stars de Hollywood, des champions sportifs et des patrons de la Silicon Valley, la méditation est notamment enseignée dans des facultés de médecine et de gestion, pratiquée dans des écoles et des entreprises et utilisée comme complément à des traitements médicaux ou psychologiques. » C'est incroyable. C'est de plus en plus populaire. On a recours de plus en plus à la méditation. Plus loin, on dit, dans le monde des affaires, la méditation se répand aussi comme une traînée de poudre. S'il y a un endroit où est-ce que c'est terre à terre, où est-ce que, je veux dire, il n'y a pas rien de plus concret, c'est une entreprise. Et s'il y a quelque chose de plus, j'allais dire, inconcret, mais qui n'est pas concret, c'est la méditation. C'est de l'intangible. Eh bien, malgré que c'est de l'intangible, de plus en plus d'entreprises vont avoir recours à la méditation. On va emmener des gens pour donner des séances de formation pour apprendre à méditer. Vous avez plusieurs types de méditation. Il y a la méditation basée sur l'utilisation de phrases ou de mots répétés pour développer la conscience, basée sur la respiration pour développer la concentration, l'attention. Une autre qui vise à prendre conscience de chaque instant, chaque son de son corps, son environnement. Ou vous avez la méditation qui vise à changer notre vision de la réalité. Mais, savez-vous quoi? Dans ce même article, on nous dit quelque chose d'intéressant, c'est que, selon la recherche, les bienfaits de ces types de méditation, eh bien, ça révèle que ces bienfaits-là relèvent de l'anecdotique et non pas de la science. Écoutez bien ce qu'on dit. Selon les calculs de Madhav Goyal, un programme de 8 semaines de méditation comme le MBSR semble diminuer l'anxiété de 5 à 10 % et les symptômes dépressifs de 10 à 20 %, ce qui correspond grosso modo aux effets des médicaments ou antidépresseurs. Mais les autres bienfaits tiennent encore de la spéculation. Nous n'avons pas trouvé de preuve que la méditation améliorerait l'humeur, l'attention, le traitement de la dépendance aux drogues, les habitudes alimentaires, le sommeil ou la maîtrise du poids, prévient Madhav Goyal. Donc, les bienfaits de ces types de méditation relèvent de l'anecdotique et non pas de la science. Pourquoi je vous parle de ça? Bien, dans un premier temps, parce qu'il y a un boom. Il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers ce type de méditation-là. Et qu'est-ce que ça nous lance comme signal? C'est qu'il y a de plus en plus de Québécois qui recherchent à développer leur intériorité. Il y a un intérêt pour le développement de l'intériorité. Mais ça doit nous lancer comme un son de cloche à nous, les chrétiens. Parce qu'on est appelés aussi, nous, à développer une saine intériorité. Et aussi pour démontrer que nous, les chrétiens, on n'est pas contre la méditation. On ne la pratique pas de cette façon-là. Mais néanmoins, la parole de Dieu nous appelle à méditer. Mais le type de méditation que la Bible enseigne, c'est une méditation qui est en relation avec un être personnel, avec un Dieu personnel, avec un Dieu vivant, un Dieu bien réel, avec un interlocuteur vivant. Puis c'est la méditation selon la parole de Dieu qui va nous amener à être comblés. Et c'est ce que le psaume 1 nous enseigne. Puis savez-vous quoi? C'est par la méditation de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit des choses, qu'on va sortir du cercle vicieux de l'amertume. Comme vous le savez, vous qui êtes ici présents, et peut-être certains parmi vous qui êtes sur la toile, on est dans un 21 jours, c'est notre dernier segment, c'est notre dernière semaine d'un 21 jours où est-ce qu'on se met à part justement pour méditer, réfléchir, prier, même jeûner pour certains, chercher la face de Dieu, essayer de comprendre qu'est-ce qui a amené certaines ondes d'amertume dans notre cœur pour en être délivré et de passer de l'amertume à la grâce, pour vivre justement ce bien-être-là, être comblé par Dieu puis être libéré de cette amertume-là qui nous rend la vie si misérable. Et une des clés pour sortir de l'amertume, c'est par la méditation de la parole de Dieu. Vous savez que l'amertume, on voit ça dans le Deutéronome 29, les versets 18 et 19, Deutéronome 29, 18 et 19. L'amertume, souvent dans nos cœurs, c'est relié à des individus qui nous ont fait mal, qui nous ont blessés, qui nous ont trahis, qui nous ont rejetés, qui nous ont abandonnés, qui nous ont humiliés, qui ont commis des choses injustes à notre égard. Mais en vérité, ce sont juste des personnages. Parce que le Deutéronome 29 nous dit que l'amertume attaque Dieu. Notre amertume, c'est une attaque à l'égard de Dieu. C'est quelque chose dans notre vie qu'on n'a pas digéré. On n'a pas digéré que Dieu, dans son plan, a permis telle offense à notre égard. Et c'est pour ça que c'est au travers de la croix qu'on va connaître notre libération de l'amertume et on va passer de l'amertume à la grâce. Et donc, qu'est-ce qu'elle procure? La méditation biblique, elle procure du plaisir, de la vitalité et du succès. Et avant qu'on entre dans ces trois points-là, j'inviterai Dominique à s'avancer pour nous lire le psaume 1, selon la version de Clément de Marot et Théodore de Bèze.
Bonjour. L'homme qui fuit le conseil des trompeurs, sans s'arrêter au chemin des pécheurs, ni sur le banc où les moqueurs s'assaient, mais que la loi du Seigneur émerveille, loi dont il est nuit et jour désireux, certainement celui-là est heureux. Il est pareil à l'arbre grand et beau, planté le long d'un clair courant ruisseau. En sa saison, son fruit vient en bon nombre. Il est toujours plein de fraîcheur et d'ombre. Le vrai croyant et tout ce qu'il fera à l'avenir ainsi prospérera. Mais les pervers n'auront pas un tel sort. Ceux qui s'en semblent joyeux et forts ne sont que paille au gré du vent chassé. Et leur splendeur sera vite passée au jugement quand tous ces réprouvés parmi les bons ne seront pas trouvés. Car le Seigneur connaît les hommes droits et prend soin d'eux sur le chemin étroit. ils recevront le vrai bonheur qui dure. Une autre voie aux pécheurs semble sûre, mais les voilà dans la direction où, comme leur projet, ils périront.
Merci, Dominique. C'est une belle traduction, poétique du psaume 1. Et avant qu'on rentre dans le vif du message, eh bien, je vous invite à qu'on puisse se recueillir et puis pour que notre cœur soit préparé et disposé à recevoir ce que Dieu veut nous donner aujourd'hui et spécialement dans ce dernier segment du 21 jours. Recueillons-nous, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci de nous apprendre à la méditer, à la laisser passer dans notre cœur, à nous enrichir de ce que tu veux nous dire. Pour, comme Job disait, faire plier notre volonté à tes paroles. Pour apprendre à te suivre, Seigneur, apprendre à te laisser nous guider, nous diriger. À faire baisser ou à désamorcer notre résistance, Seigneur. Merci pour ta parole, parce que tu es un Dieu qui est doux et humble de cœur et tu sais comment approcher notre cœur. Puisses-tu le faire en toute douceur aujourd'hui, parce que tu dis que la douceur brise des os. Et tous les os qui résistent, Seigneur Dieu, dans notre cœur, puisses-tu les libérer, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, pour que le doux parfum de ta présence puisse se répandre davantage autour de nous, pour la gloire de Christ. Amen. On voit dans ce passage-là que pour être comblé, il y a trois choses à ne pas faire. Donc, de ne pas prendre la direction, de ne pas être en communion avec la conception des rebelles, de ne pas suivre le conseil des méchants, de ne pas dévier ou passer à côté de la volonté de Dieu, la voie des pécheurs, ou de ne pas être identifié à ceux qui méprisent Dieu. Assis avec les moqueurs. Mais il y a une chose à faire pour être comblé, pour être heureux, pour être, comme on dit dans le monde évangélique, béni. Hein? C'est de méditer la loi de l'Éternel. De méditer à partir de l'instruction d'un texte. La prière, comme disait M. Timothy Keller dans son livre sur la prière, la prière, c'est une réponse à une initiation que Dieu a établie ou a amorcée par sa parole. Dieu nous parle par sa parole et notre prière, c'est une réponse à ce qu'il nous a dit. C'est une réaction à ce qu'il nous a dit. C'est une discussion en fonction de ce qu'il nous a dit. Et pour essayer de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire, il veut nous amener à méditer. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit trois choses. La première, c'est que lorsqu'on médite la loi de l'Éternel, eh bien, on va en éprouver du plaisir. Et ça va nous combler, comme reniflant. Et c'est pour ça que je voulais vous présenter un peu l'état d'être d'un chrétien comblé. Et pour vous mettre dans le contexte, avant qu'on le démarre, c'est un petit clip de 16 secondes, c'est que reniflant est un chien qui est utilisé par grand galop. Et quand grand galop, ou des fois, lorsqu'il a son déguisement de Hell Kabong, il va avoir besoin de reniflant pour des missions spéciales. Mais pour faire bouger reniflant, il lui donne un biscuit. Et ce biscuit produit un effet extraordinaire chez reniflant. En anglais, on l'appelle Snuffles. Alors, je vous invite à le lancer, s'il vous plaît. Ça, c'est un être comblé. Mais le texte, c'est ça qu'il veut dire quand il dit heureux. Il est en train de dire comblé. Là. Je veux dire, t'exploses tellement que t'es bien. Là, t'sais. En québécois, on pourrait dire tu pètes le feu. T'es comblé. Puis, être comblé, ça ne veut pas dire nécessairement dans l'euphorie ou dans l'excitation. Tu peux être assis tranquille sur ta chaise berçante, puis être comblé, être repu, être bien, être rempli. Et c'est ça qu'on veut dire quand on dit à quelqu'un que Dieu te bénisse, et en d'autres mots, que Dieu puisse te combler, puisse combler ton cœur, enrichir ton cœur, fasse prospérer ton cœur. Et heureux l'homme qui trouve toute sa joie dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et méditer, c'est comme, on pourrait le traduire aussi pour les Hébreux, le synonyme de méditer, c'était ruminer. Un ruminant, ce que ça fait, c'est que, ça mâche, puis il y a plusieurs, comme, il y en a qui disent qu'il y a plusieurs estomacs ou plusieurs sections dans un estomac d'un ruminant. La nourriture est comme prédigérée, elle revient dans sa bouche, elle remastique, elle retourne, elle revient. Et donc, continuellement, il rumine, il mâche, il mastique, puis ça vient de plus en plus malléable, puis de plus en plus digérable. Et c'est à ça qu'on est appelé à faire avec la parole de Dieu. C'est pas tout de la lire, puis de faire un sprint pour la lire, mais c'est surtout l'exercice qu'on est appelé à faire, c'est de s'arrêter puis de dire, OK, dans ce que j'ai lu, qu'est-ce qui s'adresse à moi? Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me parle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me visite? Est-ce que ça fait du sens dans ce que je vis moi avec lui? C'est ça une relation intime et personnelle avec Dieu. Et de justement ruminer, repenser ce que j'ai lu, repenser peut-être qu'il y a une phrase qui a pris de l'importance ou qui nous initie à quelque chose, qui nous initie peut-être à changer d'optique, qui nous initie à exprimer notre reconnaissance, ou qui nous initie à partager un besoin, ou qui nous initie à prier, à plaider en faveur d'un autre. Keller va dire, méditer, c'est ingérer et digérer une vérité jusqu'à ce que ses idées prennent de l'ampleur et de la saveur, et que le cœur ressentent la réalité de Dieu. En d'autres mots, quand on lit les Écritures, on doit rechercher à méditer, repenser ce qu'on nous dit, ce que Dieu veut nous dire, jusqu'à ce qu'on ait découvert le sens christocentrique. Parce que si on ne découvre pas le sens christocentrique, où est-ce que Christ, Jésus-Christ est au centre, mais tout ce qu'on va faire, c'est au mieux vivre dans la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu ne nous appelle pas à vivre dans la connaissance du bien et du mal. Il veut nous apprendre à le suivre, à le connaître. Et découvrir la vie à laquelle Dieu nous appelle, découvrir la volonté de Dieu, c'est découvrir la vie abondante à laquelle il nous appelle. Vous pouvez prendre en note ces versets-là. Proverbe 21:5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. 1 Timothée 3:13. Car ceux qui remplissent convenablement leur service ou leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Jacques 1:25, celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité, va être comblé. La vie abondante ne vient pas des circonstances favorables, mais de la part d'un Dieu qui nous est favorable au milieu d'une vie imparfaite. Quand Dieu dit qu'il va nous donner une vie abondante, ça ne veut pas dire une vie sans soucis, sans problèmes, sans obstacles, sans chicanes, sans tensions. On a juste à lire les actes des apôtres. Il y en a eu des tensions. Il y en a eu des obstacles. Des tribulations, des persécutions, du rejet, de l'injustice. Mais le psalmiste dit, pour être comblé, eh bien, c'est en méditant la loi de l'Éternel. Puis en plus, il dit, Tu veux être comblé? Mais tu vas apprendre à trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais il semble que moi, je suis dans la Nouvelle Alliance. Je me dis, mais il semble, la loi de Moïse, tout ce qu'elle fait, c'est me terrasser. Mais l'Évangile, elle me relève. Je me dis, mais ça, on changerait ce texte-là pour dire, mais qui trouve son plaisir dans l'Évangile. Mais ça, c'est surtout pour nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, c'est l'Évangile qui est le centre de notre vie. Ce n'est pas la loi. La loi n'a pas été abolie, mais elle a été accomplie pour que justement on puisse vivre dans la liberté et qu'on puisse marcher dans les voies de Dieu par le Saint-Esprit. Mais savez-vous ce que j'ai compris? Comment on peut appliquer ça dans notre vie si, justement, on n'est plus redevable à la loi comme c'était le cas sous l'Ancienne Alliance? Mais l'auteur du psaume 1 avait compris une grande vérité que Paul a enseignée dans Galates chapitre 3. C'est que la loi nous a été donnée, Galates 3, 23 et 24, pour nous conduire à Christ. La loi, c'est le ministère de la condamnation, Paul va dire aux Corinthiens. Et comment que le ministère de la condamnation, même Paul va dire, il va plus loin, il dit, c'est le ministère de la mort. Comment le ministère de la mort peut être un sujet de plaisir, de joie? Mais justement parce qu'elle nous conduit à Christ. Au travers de notre condamnation, on n'a pas d'autre choix que de trouver le pardon à la croix de Jésus-Christ. Et pas juste le pardon pour être sauvé au moment où est-ce qu'on a été régénéré, qu'on a été sauvé, mais pour trouver aussi le pardon, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus-Christ, on va continuer à faire des fautes, à manquer le but, à pécher, à offenser Dieu. Mais la loi de l'Éternel amène la condamnation, mais ça nous ouvre, c'est une lumière rouge pour nous dire, vois-tu, c'est là que tu as besoin d'un sauveur. C'est là que tu as besoin de guérison. C'est là que tu as besoin de transformation. C'est là que tu as besoin de moi. Et c'est ça qui produit en nous un plaisir, parce qu'on a un libérateur. La loi nous rappelle notre besoin d'un libérateur. Elle met en lumière ma faute, démontre ma culpabilité, puis mon besoin de l'Évangile. Un bon exemple, j'aime ça rappeler cet exemple-là, Deutéronome 21. Je vous invite les jeunes à lire spécialement les versets 18 à 21. Deutéronome 21, versets 18 à 21. Ça nous parle que quand un jeune ne faisait pas son lit, moi je donne un exemple, là, il ne parle pas de cet exemple-là spécifique, là, mais je donne un exemple. Puis ses parents disaient, bon, tu peux-tu aller faire ton lit? Puis il ne faisait pas. Peux-tu ramasser la vaisselle, puis il ne faisait pas. Tu peux-tu rentrer à minuit, puis il rentre à 2h du matin. À un moment donné, quand les parents en avaient plein leur casque, ils allaient voir un prêtre, puis ils disaient, OK, là, c'est assez. Fait que là, on convoquait les gens du village, on entourait le jeune. Puis savez-vous ce qu'on faisait? La loi disait de le lapider. La rébellion, ça se corrigeait une fois pour toutes. La lapidation. Et ça veut dire, les jeunes, que à chaque fois que vous allez être en tension avec vos parents puis que vos parents vous font sentir que vous êtes rebelles, hein, rappelez-vous ce que vous méritez. Puis arrivez à la croix en disant, « Seigneur, aujourd'hui, j'aurais mérité d'être lapidé. Mais tu m'as épargné, tu as subi ma condamnation. » C'est ça la bonne nouvelle. Méditer la loi, ça implique justement notre confession, comme on l'avait vu dans 1 Jean 1, 7 à 9. Lorsqu'on avoue nos fautes. Savez-vous quoi? Des fois, je commets une faute, puis derrière cette faute-là, je vais dire, OK, j'ai fait une faute. Je n'ai pas eu le courage d'y dire la vérité à cette personne-là. Ça, c'est le premier niveau de confession. C'est bon, dans l'action, je n'ai pas eu le courage de dire la vérité. Mais en dessous de ça, qu'est-ce qui m'a amené à manquer de courage? J'ai voulu préserver ma réputation, je voulais être aimé par la personne plutôt que l'aimer. Puis là, ah, en d'autres mots, j'ai pas fait confiance à Dieu. J'ai voulu régler les choses à ma manière. J'ai voulu m'épargner, sauver le chou puis la chèvre. Puis on peut aller, on peut laisser la parole de Dieu puis la, encore amener plus profondément que juste l'action, mais la motivation derrière l'action. Puis c'est à ça que ça sert de méditer la parole, c'est de laisser justement la pensée de Dieu venir nous éclairer au plus profond de notre être. Dans les tiroirs les plus enfouillis de notre cœur. Dans les endroits de notre chambre qu'on ne veut pas faire visiter à nos invités. De laisser Dieu pénétrer notre âme pour justement voir où est cette racine d'amertume. Durant le processus du 21 jours, à un moment donné, j'ai fait la liste de tout ce qui m'a rendu amer, puis j'ai mis des noms à côté. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait des parallèles. Je ne sais pas si ça s'applique à tout le monde, là, mais je vous parle de mon expérience à moi, là. Mais il y avait des similitudes entre ce que je pouvais reprocher à mes parents puis un de mes frères, puis ce que j'avais vécu avec d'autres personnes, comme si ce qui n'avait pas été réglé initialement avait une répercussion dans ce que je pouvais vivre relationnellement avec d'autres. Et c'est pour ça c'est que j'ai pu faire ce lien-là en méditant, en laissant le Saint-Esprit me diriger dans cette méditation-là. Puis méditer la loi aussi, ça produit de la reconnaissance, de la gratitude. Ça peut amener des actions de grâce. Dans le psaume 130, verset 4, la version Sommeur nous dit « Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te révère. » Parole vivante va dire « Voici que le pardon se trouve auprès de toi afin que l'on t'adore. » Plus la loi va nous amener à la croix, à Jésus-Christ, plus ça va nous amener un cœur reconnaissant parce qu'on va reconnaître de quoi on est pardonné. Pas seulement de quoi on a été pardonné, mais de quoi on est pardonné en tant que pécheur. Et pourquoi y est-il comblé? Eh bien, le pécheur est comblé parce qu'il éprouve de la vitalité en méditant la loi de l'Éternel. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit. Lorsqu'en revient la saison, son feuillage est toujours vert. Il est comme un arbre qui est vivifié, un arbre qui est bien vivant. Puis il y a deux éléments là-dedans. Il y a l'élément intérieur, parce que ce sont les racines qui vont chercher toute la substance pour garder l'arbre en vitalité. Puis il y a l'élément extérieur. Les feuilles verdoyantes et le fruit, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que il va porter son fruit en sa saison. Et c'est pour ça que ce qu'on sème aujourd'hui va porter du fruit demain. Et quand on n'est pas équipé pour faire face à une épreuve aujourd'hui, c'est peut-être dans bien des cas parce que il y a eu un temps où est-ce que notre cœur n'a pas été ensemencé de ce que Dieu voulait nous donner comme provision. On arrive à court de fruits à ce moment-là. Et donc, autant dans son intériorité, l'arbre est bien enraciné et sous la terre, il va chercher tout ce qu'il a besoin. Ça parle de notre intériorité, notre relation intime avec Dieu. Mais aussi extérieurement, il y a une vitalité qui se voit et par le fruit qui se goûte. Et le fruit de l'arbre n'est pas là pour nourrir l'arbre. Ce qui nourrit l'arbre, c'est ce que les racines vont capter sous terre. Les fruits sont là pour nourrir les autres, pour le bien des autres. Et ça, ça parle que le fruit que Dieu veut produire dans nos vies, c'est pour que d'autres puissent en bénéficier, pour que d'autres puissent être enrichis, pour que d'autres puissent vivre des moments savoureux. Et ce n'est pas pour le bien de l'arbre directement. Même si l'arbre en tire un certain bienfait, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'auteur va parler de ça parce que ce n'est pas tous les arbres en Israël qui sont verdoyants. Il y a des arbres, comme on voit l'olivier, qui, lorsqu'il est près d'un courant d'eau, va être verdoyant. On voit son fruit ici à l'écran. Mais il y a d'autres arbres, à cause du climat, à cause qu'il y a, quand même plusieurs régions d'Israël. C'est un tout petit pays, mais il y a des régions où est-ce que la terre, elle est granuleuse, elle est même rocailleuse. Il y a des secteurs d'Israël où est-ce qu'ils reçoivent pas beaucoup de pluie. Puis on l'a vu dans l'histoire d'Israël. Dans l'Ancien Testament, il y a eu des périodes de sécheresse aussi. Il fallait que le peuple crie à Dieu pour que l'eau puisse tomber parce que ça devient difficile pour la culture. Et donc, c'est pas tous les arbres en Israël qui peuvent être aussi verdoyants que celui qu'on vient de voir. Et on a un autre texte dans Jérémie 17. Je vous invite à tourner là. Jérémie 17, les versets 5 à 10. Qui compare justement ces deux types d'arbres-là. Il va dire à partir du verset 5 de ne pas mettre sa confiance dans un être humain. De ne pas s'appuyer justement sur un être humain. Spécialement, de ne pas s'appuyer sur ceux qui peuvent nous détourner du Seigneur ou chercher en se détournant du Seigneur un appui en dehors de lui. Puis au verset 6, il dit, celui justement qui ne met pas sa confiance en Dieu, mais en un être humain, il est comme un genévrier dans la plaine aride et ne voit pas arriver le bonheur. Il demeure dans les lieux brûlés du désert sur une terre salée et sans habitants. Et ça veut dire que si on ne s'appuie pas sur le Seigneur, si on ne développe pas une saine intériorité, à un moment donné, on va devenir aride, on va devenir sec et on va avoir soif. Et ce n'est pas pour rien que dans le Proverbe 31:6, la soif est associée à l'amertume. Mais il va dire, « Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur et celui dont le Seigneur est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. » Même si les circonstances autour de nous ont rien de satisfaisant en soi, ont rien qui provoque une stimulation en soi, parce qu'on est branché sur lui, parce que notre intériorité va puiser dans sa personne au travers quoi? La méditation. C'est celui qui médite sa parole qui va vivre ces bienfaits-là. Et au travers de ce 21 jours, c'est ça que le Seigneur veut nous amener à vivre, c'est de découvrir en méditant sa parole où est-ce qu'on a passé à côté. Quel fardeau qu'on garde, parce que l'amertume c'est un fardeau qu'on porte dans notre cœur, mais c'est un fardeau qui infecte les autres, comme nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Ça empoisonne la vie des autres. Je vous l'avais partagé récemment, à un moment donné, c'était tellement facile pour moi d'entrer en colère, je veux dire, juste une petite étincelle, quelqu'un échappait une cuillère, un de mes enfants échappait une cuillère, ça pouvait me mettre en colère parce qu'il faisait trop de bruit, c'était comme, j'étais à fleur de peau. Et ça a pris une guérison du Seigneur pour m'amener à être libéré Et parfois, on ne comprend pas pourquoi. Puis moi, j'avais prié, j'avais lu des livres sur la colère, puis je me disais, pourquoi? Puis je lisais les versets là-dessus, puis j'avais été passé, j'avais pris une concordance, je vais aller voir tous les versets, je veux comprendre. Mais j'essayais de comprendre avec ma raison. Mais ce qui m'amenait en colère, ce n'était pas ma raison. C'était émotionnellement. Je retenais quelque chose contre des gens. Et c'est émotionnellement qui est notre plus grand champ de bataille. Parce que je peux savoir ce qui est vrai. Je peux savoir ce qui est bon. Mais pas nécessairement le vivre, l'expérimenter. Puis c'est pour ça que le Seigneur veut nous consacrer, veut nous mettre à part, veut nous sanctifier corps, âme et esprit, dans le sens, dans toutes les dimensions de notre être. Ça n'exclut pas la raison, mais ça n'exclut pas non plus le côté affectif, émotionnel. Et quand ça nous dit de porter son fruit en sa saison, eh bien, ça nous appelle aussi à la persévérance. Parce que ça ne veut pas dire que parce qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a montré quelque chose, le Seigneur m'a parlé, m'a visité, ou a mis le doigt sur un bobo, que nécessairement, la plaie va être tout de suite cicatrisée. Moi, j'ai une cicatrice sur le bras ici. Ça me fait plus mal. J'oublie que j'ai une cicatrice. Mais ça me rappelle que j'ai eu un accident en tondant mes haies. Je me rappelle de cet événement-là. Mais je ne me rappelle plus de la douleur que ça causait, par exemple. Fait que des fois, on peut se rappeler des éléments douloureux. Mais ça ne produit pas le même effet quand on est guéri. Moi, j'avais partagé à un moment donné au groupe Maison. À un moment donné, si quelqu'un veut le voir, je pourrais vous le montrer, là. Mon gros orteil gauche n'a plus d'ongle. Et ça, je vous le dis sans l'ongle d'un doute. Il n'y a plus d'ongle. Mais avant que j'aie plus d'ongle, j'avais toujours un problème, il s'incarnait. Puis même, c'est à partir de ce moment-là que j'ai cru à la réincarnation parce qu'il se réincarnait. Pas celle d'après la mort, celle dans mon pied, je parle. Là. Je veux pas que c'est n'importe quoi. Dis, Éric, quoi, réincarnation? Sur l'orteil, oui, j'y crois. En dehors de ça, non. Là, à un moment donné, j'ai dit au médecin, pouvez-vous le scier pour qu'il soit moins large puis qu'il pousse comme ça plutôt que comme ça? Il l'a fait, ça n'a pas marché, il réincarnait. Là, dans ce temps-là, c'était la mode des bas blancs, des chaussettes blanches. Chaussettes pour ceux qui sont en France. Et là, dans ce temps-là, peu importe la couleur de pantalon qu'on portait, c'était des bas blancs, c'était la mode. Mais où est-ce qu'il y avait mon orteil? Il y avait toujours un cerne rouge-brun parce que ça saignait. Puis, je mettais pourtant des rubans, des diachylons, puis tout ça. Mais j'ai jamais, mais jamais, mais jamais connu un moment dans ma vie où est-ce qu'il y a eu autant de gens qui m'ont pilé sur les pieds. Je me suis jamais cogné les pieds comme dans cette saison-là. Ça faisait mal à chaque fois. Ah! Quelqu'un me pilait dessus, un enfant, n'importe quoi. Puis j'enseignais dans une classe. Je ne sais pas pourquoi. Tous les élèves me pilaient ses pieds à ce moment-là. J'ai dû subir une opération. Et là, je me souviens, j'étais dans la salle d'attente. Puis là, il y avait une infirmière qui venait consoler. Il y avait un vieux monsieur sur une... Il avait peut-être 80 ans, puis il avait une opération à cœur ouvert, tu sais. Puis là, il y avait des gens, des opérations assez graves. Puis là, l'infirmière vient me voir, puis toute compatissante, « Vous, monsieur, vous êtes jeune, qu'est-ce qui se passe? Hey, »« Écoutez, madame, moi, je suis stressé, on va m'opérer. »« Ah oui, parlez-moi-en. On va m'enlever l'ongle. »« Ah, ça va bien aller. » Puis j'étais parti. Je suis là, « Elle m'abandonne! » Tu sais, j'étais là, c'était spécial parce que ils me font mettre là, la genre de robe, là, tu sais, avec rien en dessous. Puis là, ils me promenaient dans une chaise roulante. Puis là, je me souviens de l'image, c'était extraordinaire. Je voyais des gens assis, là, puis là, ils me regardaient tous. J'avais quoi, 23, 24 ans dans ce temps-là? Ils me regardaient, c'est, me semble, il est trop jeune pour mourir, ce gars-là. Puis moi, je me sentais, je vais vous faire enlever l'ongle. Mais quand on est blessé puis que c'est pas guéri, à chaque fois qu'on y touche, ça fait mal. Mais venez me toucher le bras, venez me donner une tape sur le bras, ça me fait plus mal, c'est guéri. Puis si le Seigneur veut adresser notre amertume, c'est pas pour nous punir, c'est pas pour nous terrasser, c'est pas parce qu'il nous en veut, c'est pour nous libérer puis nous guérir, pour qu'on puisse célébrer la gloire de sa grâce. Puis dire, Seigneur, t'es donc bon, t'es donc grand, c'est tellement vrai que tu m'aimes. Mais faut une chose, c'est arriver au pied de la croix en disant, je ne veux pas me venger, Seigneur. Je veux te le remettre à toi, cette douleur-là, que cette blessure-là a causée. Je ne veux plus aller en guerre là-dessus. Puis de méditer la parole de Dieu, ça va nous amener à découvrir et à voir où se trouve justement ce lieu-là. Et ce que ça va produire, ça, c'est l'arbre desséché puis l'arbre qui est pris d'un courant d'eau. Et ça va nous amener à être comblés en ayant du succès. Le Seigneur a dit à Josué, dans Josué 1:7 à 9, qu'il veut lui donner du succès dans ce qu'il va entreprendre, dans ses entreprises, puis il lui donne la clé. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, tu le liras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit, alors tu mèneras à bien tes entreprises, tu réussiras. Et savez-vous, une des choses qui est à mettre en pratique, parce que souvent quand on dit mettre en pratique, c'est les 613 commandements, les ordonnances, mais savez-vous qu'est-ce qui fait partie aussi de mettre en pratique pour quelqu'un de l'ancienne alliance comme Josué? C'est d'aller apporter un sacrifice aussi. Ça faisait partie de mettre en pratique. Et pour nous, la nouvelle alliance, c'est de revenir à la croix. Pas pour être sauvé à nouveau, si on est déjà sauvé, si on est déjà enfant de Dieu, mais pour se rappeler que notre faute a été payée. Et qu'en retournant, en communion, en relation, en se laissant instruire par lui, on peut connaître justement la guérison, la délivrance. Dieu aussi a donné du succès à Néhémie. Néhémie, dans Néhémie 1.11, il dit, « Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur, fais-lui trouver grâce devant cet homme. » Puis il va dire plus loin, « La bonne main de l'Éternel était sur moi. » Le Seigneur lui a donné du succès. Mais pour nous, le succès sous la nouvelle alliance, c'est quoi? Colossiens 4.12 nous dit, « C'est d'accomplir la volonté de Dieu. » Et en conclusion, il faut faire attention à la bactrocera olae. C'est quoi ça, la bactrocera olae? C'est un insecte qui vient, c'est une petite mouche qui vient piquer le fruit de l'olivier et qui fait en sorte que son fruit est plus mangeable, il est plus comestible. Et comme Satan est appelé par Jésus le maître des mouches, Béelzébul, eh bien, sache que Satan entre en guerre avec ceux qui portent du fruit. Et c'est pour ça que j'aimerais te dire aujourd'hui, dis-moi quelles sont tes tentations et je te dirai où se situe ton amertume. Est-ce que tu veux devenir séduisant, indépendant, invincible, immuable, sécure, confortable, glorieux? Est-ce que tu veux devenir la norme? Eh bien, une personne qui est délivrée de l'amertume, elle trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Elle est comblée. Elle est heureuse. Elle est bénie. Et ce qu'elle a connu de Dieu, c'est qu'elle a trouvé sa joie en méditant la parole de Dieu. Parce qu'elle a trouvé son plaisir de la vitalité et du succès. J'inviterai les musiciens à s'approcher en terminant. Et pendant qu'ils s'approchent, je vous invite à vous recueillir pour qu'on puisse remettre nos cœurs devant Dieu et lui demander, cette semaine, pour ce dernier segment, parle à mon cœur, visite-moi pour que je puisse passer de l'amertume à la grâce. Prions. Seigneur, tu veux nous appeler à méditer ta parole. Tu veux nous appeler à réfléchir, à ruminer, à repasser ce que tu nous as dit au travers de ce qu'on a lu, au travers de l'instruction que tu nous as donnée. Ça peut être au travers même un enseignement, une prédication, une lecture de ta parole ou en lisant un livre d'instruction. Apprends-nous dans un premier temps à reconnaître ta voix, parce qu'on peut se dire n'importe quoi dans notre tête, Seigneur. Et dans un deuxième temps, puisses-tu nous donner un cœur qui est à ton écoute, comme on lit dans le Nouveau Testament souvent, que celui qui a des oreilles entende. Puisses-tu nous donner ces oreilles pour entendre ce que tu veux nous dire, de nous amener à mettre le doigt sur des sources d'amertume, les amener à la croix, de plus réclamer vengeance, Seigneur, mais de trouver la guérison et nous amener à lâcher prise. Ô Dieu Tout-Puissant, toi seul peux faire cette œuvre. Humainement, c'est impossible. Mais toi, tu sais comment atteindre notre cœur. Et que cette guérison, Seigneur, puisse avoir un impact dans notre milieu, chez nous, dans notre entourage, dans nos lieux de travail, dans nos lieux sociaux, où est-ce qu'on se rencontre avec d'autres personnes, dans la ville de Gatineau, dans l'Outaouais, au Québec, dans la francophonie, Seigneur. Que 2017 puisse être une année de délivrance pour les membres de cette Église et pour tous ceux qui ont participé à Libération 21, et que ça ne se limite pas juste à nous, Seigneur, mais que ça crée un effet boule de neige pour la gloire de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.